Chers amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes sur le Libre Journal des Artisans. Je suis Benoît Aguelon, artisan tailleur à Neuilly-sur-Seine, et je suis assisté de Benoît Duchâtelet. Benoît, bonjour, bonsoir.
Bonsoir Benoît, c'est une joie.
Donc aujourd'hui, nous allons parler artisanat, mais aussi d'art et de démarche artistique. Le Libre Journal des Artisans se caractérise par la recherche et l'exposition de personnes qui travaillent autour du bien, du beau et du vrai. Le bien, le beau et le vrai sont effectivement le nord et le sud de cette démarche artistique et artisanale. L'intelligence de la main, du cœur, mais aussi du ventre, eh bien, sont le cœur de notre savoir-faire et notre savoir-faire français, ce qui fait une partie du génie français. Alors ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Luc de Moutier, ingénieur, inventeur et sculpteur. Luc, bonsoir.
Bonsoir Benoît.
C'est un honneur de vous présenter. En quelques mots, qui êtes-vous ?
Merci pour cette invitation d'abord.
Merci.
Qui je suis ? Un homme de plus de 60 ans, père, grand-père d'une famille fantastique, mari, et je suis aussi un ingénieur qui a été passionné par les mathématiques quand j'étais en terminale, qui a fait maths-sup, maths-sp, qui est rentré dans une école d'ingénieur.
Parcours classique.
Parcours tout à fait classique. Qui après ça est rentré dans l'industrie, qui a rencontré un ami de son père de longue date, qui s'appelait Étienne Schlumberger, et qui était un inventeur. C'est lui qui a inventé la pile à combustion.
D'accord.
Et ça m'a profondément marqué à l'époque. Il m'a commencé à me faire travailler. J'ai fait de la géophysique sur des problèmes de stockage d'hydrocarbures en sous-sol, géostock. Et puis après ça, je suis rentré dans l'industrie. J'ai commencé par travailler chez Dassault Systèmes. Petite boîte à l'époque, on était passant.
Oui.
Et après ça, je suis rentré chez Renault pour m'occuper de l'introduction de la CAO dans tout le process de définition de la voiture.
Oui, c'est la création assistée par ordinateur,
la
c'est ça.
La CAO, voilà. Et puis, la vie a fait que je suis parti en 2000 de chez Renault pour me lancer dans une aventure d'invention, la création d'une société autour d'un concept, on en reparlera, qui utilise le pop-corn pour remplacer le polystyrène expansé dans l'emballage.
D'accord. Donc, rien à voir encore avec une démarche artistique.
Rien. En 2004, je vends 30 000 emballages de bouteilles. Le produit marche très très bien, mais je le fais de façon artisanale, donc aucune concurrence possible avec l'industrie. Et je cherche des partenaires industriels pour continuer l'affaire. Et là, je ne trouve personne.
Oui.
Je fais un premier burn-out en 2002.
D'accord, donc... Sur Radio Courtoisie, nous bannissons autant que faire se peut les mots anglais. Donc,
alors,
une sorte de dépression nerveuse, une dépression suite
profonde,
au travail.
Profonde. Très profonde dépression qui est, alors je vais rester en français, qui est de la fatigue nerveuse en fait.
Oui.
C'est la fatigue en métallurgie, c'est quand on prend un fil de fer, on le tord dans tous les sens et au bout d'un moment il casse.
Absolument.
C'est ce qui s'est passé dans mon cerveau.
D'accord. C'est le cas, c'est le mal du 21e siècle, en quelque sorte. On le voit assez récemment.
J'étais un peu précurseur, c'était au 20e siècle.
D'accord.
Et puis, je retrouve du travail, mais ça ne se passe pas bien. Et lors d'un pèlerinage en Israël, ma femme et moi, avec notre famille, avec nos enfants, ma femme et moi, nous ne faisons que dessiner. Cette passion du dessin m'est revenue peu de temps après notre mariage et nous dessinons. Tout le monde prend des photos, mais nous dessinons. Et je rentre à la fin du pèlerinage, on arrive à Jérusalem, je vais dans le tombeau du Christ et là, il y a deux Américains, un ménage, qui prennent en photo chaque centimètre carré du tombeau. Et
oui.
Ça me met en colère. Ça me met dans une colère profonde, je ne sais pas pourquoi.
Mm-hmm.
Et j'ai dit, mais ils veulent prendre le tombeau avec eux ou quoi? il n'y a plus personne, plutôt que d'être là, ça me met en colère. Et cette colère, elle dure. Et on dîne, et après le dîner, il y avait un topo avec notre curé, qui était aussi notre ami, qui nous avait emmené un pèlerinage paroissial à Jérusalem. Et il nous dit, on ne prend plus le temps d'admirer ce qui est beau et bon.
Oui.
Et c'est dans ma tête. J'ai des idées uniquement le matin. Et le lendemain matin, en me réveillant à 5h30, quelque chose comme ça, je me dis, est-ce que c'est pas ça ma vocation, que d'admirer ce qui est beau et bon pour le donner à voir aux autres? Je reviens de Jérusalem, j'arrête mon métier d'ingénieur et je ne fais plus que dessiner. Dessiner, dessiner, dessiner. Dessin et aquarelle.
Un déclic qui s'est fait en Terre Sainte.
Absolument.
Grâce à un Américain.
Grâce à un Américain.
Grâce à un Américain.
À des Américains, deux Américains.
Décidément, des Américains en Terre Sainte, l'actualité est encore là.
Et puis, je décide d'arrêter mon métier d'ingénieur. J'étais dans une profonde détresse à l'époque, professionnellement parlant, et je ne fais plus que du dessin, de l'aquarelle. Mais quand je dis je ne fais plus, je fais à peu près par an 1000 aquarelles.
C'est énorme. C'est énorme.
Ça fait en 3 par jour, quoi. C'est pas grand-chose.
Oui. Oui.
Enfin,
oui.
Y a des jours où j'en fais 40.
D'accord.
Et une aquarelle, ça peut être 10 secondes.
Oui, oui, prolixe du pinceau quand même.
Et en fait, je me passionne pour une chose, c'est pour le mouvement. Pour attraper très rapidement une attitude, un mouvement et la vie.
Mais pourquoi ne pas, je vais être provocateur, pourquoi ne pas avoir privilégié la photographie ou la vidéo dans ces cas-là?
Pas pareil.
C'est pas pareil.
C'est pas pareil. La photographie, c'est une image instantanée.
Oui.
C'est beaucoup plus intrusif. J'ai, par exemple, été dans un cours de danse contemporaine, Martha Graham, et j'étais dans la salle une fois par semaine. Je restais une heure et demie, parce qu'au bout d'une heure et demie, j'étais complètement rincé, et je croquais les danseuses. Et la professeure qui m'avait invité à ce cours m'a dit, c'est tout à fait étrange, parce que quand j'ai des photographes qui viennent photographier mes danseuses, c'est vraiment une formation professionnelle.
Hein, oui, oui.
Eh bien, ces photographes sont comme des fauves pour attraper l'image. Et ils dérangent, en fait, les danseuses.
Oui, il y a la pose.
Et non, parce que c'est du mouvement. Ils prenaient pas la pose. Et le photographe se projetait et il y avait une attitude presque...
Agressive
vis-à-vis du danseur ou de la danseuse. Et moi, toi, quand tu es là, personne ne s'aperçoit que tu es là. Et j'avais eu cette expérience. J'avais fait, pendant quelques années, des reportages de mariages, de fêtes. Et je me mettais quelque part et je m'asseyais, puis je dessinais. Après ça, je mettais en couleur et on en faisait des livres autour de cette fête qui venait de se passer. Et personne ne me voyait. Et donc, il y a une différence entre le photographe et le dessinateur.
Et d'ailleurs, ça rejoint aussi le réflexe qui est pris dans les procès d'assises, où il n'est pas le droit d'y avoir de caméra et de photographie, mais il y a des artistes qui sont là pour croquer les audiences aux assises et qui sont tout à fait discrets et qui permettent de laisser une trace
en image,
et effectivement c'est aussi une façon de saisir. Alors on pourrait dire mais il suffirait d'eux, mais non, le trait artistique choisi à cette occasion a une émotion différente.
Alors il y a une chose aussi qui est assez étonnante. En 2012, bon, ma conversion à l'art c'est 2006 et je continuer à réfléchir, à comprendre, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et en 2012, j'ai écrit un texte qui est sur mon site, image, icône ou idole, point d'interrogation. Et je me pose la question en 2012, qu'est-ce qui est le plus vrai, une photo ou un dessin?
Vaste question.
Ben non, quand on pose la question, c'est qu'on...
On a déjà répondu.
On a déjà répondu. Mais le dessin, vous savez que c'est déjà une interprétation.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, la photo, on n'en sait plus rien du tout?
Non, et puis on peut la modifier aussi.
C'est justement ça. On peut la modifier, on peut la truquer, et donc on croit que c'est la réalité, mais on ne sait pas que c'est déjà une interprétation. Alors que le dessin, vous savez déjà que c'est une interprétation.
C'est plus direct, donc.
Pour moi, c'est plus proche de la réalité.
Oui.
Je vais faire un petit point. Nous accueillons sur le Libre Journal des Artisans Luc de Moutier, qui a un site internet, Journal d'un Pinceau, c'est ça,
c'est ça,
si je ne me trompe pas. Donc vous recherchez sur Google, Luc de Moutier, M-O-U-S-T-I-E-R. Voilà. Donc Luc, nous pouvons reprendre notre conversation.
Et 6 années plus tard, en 2012, à la suite d'une autre colère, dans un atelier des Beaux-Arts de la ville de Paris, je passe devant un atelier de sculpteur, et là j'ai une amie qui me dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je venais de me faire prendre une bataille avec une dessinatrice. Le professeur disait « Oui, on a plus depuis Auschwitz, on n'a plus le droit de dessiner le corps humain. » Alors je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » « Oui, c'est des philosophes qui ont dit ça, je ne suis pas d'accord. » Et on était en atelier de modèle vivant, hein.
Oui.
Et l'autre participant de ce cours me dit avec une haine incroyable dans les yeux, « T'as bien de la chance qu'on te laisse faire tes aquarelles.
»
Alors quoi ?
Mais dire que tu n'es pas d'accord, tu n'as pas le droit.
Attention.
Et là, on est complètement dans le côté politique de l'art, on y reviendra.
Oui, oui.
L'art est totalement politique et religieux.
Oui.
Et donc, ça me démonte complètement. Et je descends les escaliers, je passe devant un atelier de sculpteur qui est le sculpteur est un personnage assez incroyable. C'était le premier praticien de Jean Cardot, et c'est lui qui a réalisé la sculpture de Gaulle à côté du Grand Palais,
oui,
la sculpture de Churchill, qui est absolument extraordinaire à côté du Petit Palais, et le Thomas Jefferson à côté du Musée d'Orsay. Et le réel artisan de ces trois sculptures monumentales, c'est Philippe Jourdain, et je rentre dans sa classe. Et je reste pendant un an dans sa classe.
D'accord. Vous et trouvez un maître.
C'est un maître, tout à fait. Il ne me dit que 3 phrases. En un an de travail, sur mon travail, il me dit 3 phrases. Et ces 3 phrases sont celles qui continuent à me faire sculpter.
Quelles sont-elles ?
Oui, là, forcément.
Le problème, c'est qu'il faut, voir la sculpture sur laquelle il me le dit. Sur ma chaîne YouTube, j'ai 6 petites vidéos et qui expliquent la chronologie justement de tout mon travail, du dessin, de l'aquarelle et qui m'a amené à la sculpture. Mais la phrase la plus importante, qui me fait comprendre, bien qu'il ne me parle pas de lumière, c'est que c'est la lumière qui guide le travail du sculpteur et uniquement la lumière. Et j'avais 25 ans d'aquarelle dans les pattes, à regarder, à rechercher la lumière. Et c'est comme ça que l'aquarelle m'a directement mené à la sculpture.
Un parcours...
Éclairant.
Éclairant, oui, tout à fait. Et de plusieurs chemins de Damas, en fait, en quelque sorte, plusieurs révélations. Une révélation où vous passez d'une activité, on va dire, salariée, manufacturière, inventive néanmoins, à une activité artistique où vous y allez à fond, en quelque sorte, avec l'aquarelle, et puis ensuite une évolution où vous passez de la deuxième dimension à la troisième dimension.
Absolument.
Alors pour clore l'activité salariée qui a été une partie de votre vie, peut-être que vous pouvez revenir sur une anecdote qui était assez angoissante, on pourrait dire, dans le cadre d'informations dont vous avez eu écho sur une certaine façon de négocier dans l'univers professionnel qui était le vôtre, et qui vous a peut-être fait dire à ce moment-là, tiens, ce sont des méthodes qui ne sont pas les miennes, il vaut mieux que j'aille voir ailleurs.
J'étais dans un grand groupe industriel, et donc travaillant autour de la CAO, j'ai fait plusieurs postes pour essayer d'introduire la CAO, la conception assistée par ordinateur, dans toute la phase de conception du véhicule. Et un jour... un des cadres dirigeants de l'entreprise me convoque pour me demander quels étaient les coûts de changement de logiciel. Et alors, je lui avais fait j'avais rapidement brossé le tableau en voyant le coût d'achat des logiciels, le coût d'achat des matériels, On est dans les années 97. Mais surtout, le coût de la formation de tous les utilisateurs, le coût du transfert de toutes les numérisations des précédentes séries, qui était colossal, le coût de la fabrication des applications métiers qui permettaient aux utilisateurs d'utiliser correctement tous ces outils. Et c'était là où c'était faramineux. Et je lui dis à ce moment-là, vous savez, on a des sous-traitants dans nos bureaux d'études qui ont le coût horaire le moins cher de France et la meilleure rentabilité. Alors là, il va avec un sourire, il me dit, mais on aime bien travailler avec les gens efficaces. Sauf qu'un sous-traitant études, il vit comment? Uniquement en louant des personnes.
Oui.
Et donc, c'est pas sur un travail de process qui fait sa marge, c'est à la location des personnes.
Tout à fait.
Et donc, si on a le coût le plus bas et la meilleure rentabilité, il y a un loup quelque part. Et je savais ce qui se passait. Il y avait de la corruption.
Oui.
Et là, je dis oui, c'est soit ils sont efficaces, soit il y a de la corruption. Est-ce que vous voulez que je fasse une enquête sur le sujet?
Il vous a été répondu.
Ah, mais faites une enquête, monsieur. Mais si vous prenez une balle perdue, ça sera tant pis pour vous.
Voilà.
Et là, je suis ressorti de son bureau sans comprendre que ma carrière dans ce groupe industriel était terminée.
D'accord.
Quelques mois plus tard, je n'avais plus rien à faire. On est en 97. Les lanceurs d'alerte, ça n'existe pas.
Non.
Et c'est ce qui m'a... C'est cette gifle qui m'a poussé à me poser la question. Ah, mais tiens, mon idée sur le pop-corn, là, ça peut être bien. Je vais voir à l'INP, savoir ce que c'est que déposer un brevet. Je prends des renseignements, je commence à déposer un premier brevet. Je vais au syndicat de l'emballage, je montre mon truc. Les gens me disent, mais vous avez trouvé ce que tout le monde cherche? C'est extraordinaire. Et en 98-99, je commence à monter ce projet. J'ai rien à faire dans l'entreprise où je suis. Et là, je crée une jeune pousse, pour pas dire le mot anglais.
Tout à fait, oui.
Et je suis la seule jeune pousse en 98 et 99 à recevoir un prix qui s'appelle dans une organisation qui s'appelait l'ENVAR à l'époque, je suis c'est OSIO. Oui.
L'Association nationale de valorisation des brevets, c'est voilà. Ça, oui.
Et je suis la seule société à l'époque, en 98 et 99, puisque je fais deux fois le concours, qui travaille sur non pas un concept, un service, mais sur un produit physique.
Tiens, d'ailleurs, un produit physique, on a beau être en radio,
oui.
Je serais ravi de le émission, toucher à nouveau. Hop.
Cette émission, effectivement, est sur la radio, sur 95.6 ou sur rc.fr. Donc vous êtes sur le Libre Journal des Artisans avec Luc Demoutier. Et là, actuellement, notre ami Benoît Duchâtelet est en train de montrer aux auditeurs sur YouTube le produit remplaçant le polystyrène créé par Luc Demoutier.
Alors, à cette époque. Au vrai sens du terme, vous ne pouvez pas toucher du doigt de quoi il s'agit, alors que c'est mon cas.
Mais décrivons-le.
Mais on comprend très bien à la fois l'innovation et le fait de pouvoir travailler partir d'une matière naturelle et d'offrir une alternative
d'emballage
à Luc Demoutier. À quel produit actuellement?
Alors, ce qui a été délicat au début, c'était de trouver le marché. J'ai créé cette entreprise dans le sud-ouest, à Agen. Je suis tombé amoureux du Lot-et-Garonne. Après mon mariage, je suis un petit Parisien. Et Nathalie, mon épouse, est originaire du Lot-et-Garonne et nous sommes mariés en Lot-et-Garonne. Et je suis tombé amoureux de cette région, de ce pays, de cette Gascogne, pour trois raisons. La première raison, il y a des lumières exceptionnelles. Stendhal disait du Lot-et-Garonne que c'était une petite Toscane. La deuxième raison, il y a des fruits absolument exceptionnels. La tomate de Marmande en est... Le pruneau en sont des porte-drapeaux extraordinaires. Mais la troisième raison, la plus importante, les gens sont gentils. Et vraiment gentils. On peut galéger, je pourrais vous raconter quelques anecdotes, on peut galéger avec les gens sans les connaître. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je crée mon entreprise à Agen, à l'Agropole, et je me lance dans l'aventure. Je me lance dans l'aventure. Il faut fabriquer une machine. Il faut trouver des financements. Il faut commencer à embaucher des personnes. Parce que le pop-corn, c'est très joli. Mais enfin, quel pop-corn utiliser?
Oui.
Donc, on commence à faire des études sur le pop-corn. Je travaille avec une toute petite entreprise qui s'appelle Popcorn Midi-Pyrénées, qui est le leader européen du pop-corn à l'époque. Et dont le président et le fondateur s'appelle Michael Eman. On s'entend très bien. Il m'emmène aux États-Unis chez les semenciers de pop-corn pour comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux des pop-corn. Et je reviens des États-Unis avec des certitudes, c'est qu'il faut travailler sur la semence, déjà, parce que...
Dès l'origine,
parce qu'il y a deux façons de faire exploser le pop-corn, ou moins le pop-corn, le maïs, va exploser de deux façons.
Mm-hmm.
Soit, ça va être dire de ne pas parler en...
En termes anglais.
En papillon.
En papillon, oui.
Soit en champignon. C'est-à-dire que les deux grandes variétés, c'est du mushroom ou c'est du butterfly.
D'accord.
Et en fait, le champignon, qui est celui qu'on voit dans les pop-corn caramélisés qu'on achète en supermarché, est celui qui m'intéresse. Et donc, je commence à réfléchir, à comprendre, à essayer de voir comment sourcer, comment industrialiser cette partie.
Mm-hmm.
Donc, j'embauche un docteur en biologie pour commencer à faire de la recherche sur le sujet. J'embauche un ingénieur pour travailler sur la machine. Et nous nous lançons la société est créée en 2000, 2001, 2002. En 2000, j'ai un reportage sur TF1 avec PPDA pendant 1 minute et demie. Juste au moment du salon. La consécration, ça ne m'a servi à rien du tout. Si, si, ça m'a servi une fois. Je me retrouvais dans un tunnel dans les Alpes et j'allais voir un client potentiel à Montélimar. Et là, je roulais et puis j'étais trop près d'un camion et je n'ai pas vu qu'il y avait des gendarmes là. Et ils m'arrêtent à la sortie. Et donc, vous savez pourquoi on vous arrête? Non, pas du tout. Vous rouliez trop près d'un camion, alors ça fait tant de points, c'est bon. Et j'ai dit, je vais voir j'étais avec un nœud papillon, je vais voir un client à Montélimar, bon, qu'est-ce que vous proposez? J'ai du pop-corn. Et le gendarme avait vu l'émission. Ah, c'est vous?
Ah, d'accord.
Il m'a mis une prune, pour...
Deux d'Agen.
Oui, mais pour excès de vitesse, et qui était beaucoup moins cher que de se rapprocher. Donc, c'est la seule fois où j'ai eu une retombée de cette émission de télévision.
Profitable.
Et puis je fais... C'est à ce moment-là où l'histoire du clou, là, qu'on tourne...
Tout à fait.
En 2002... Là, ça a été le tunnel le plus total. Réveillé à 3h du matin, en pleurs et en sueur. Heureusement, Nathalie, ma femme et nos 5 enfants ont été merveilleux, m'ont soutenu. Et puis, j'étais voir un médecin, il m'a donné des médicaments. Ça a permis de corriger un peu le truc. Et puis 2004... Là, je m'aperçois que la société n'est pas viable. Alors, avant de tout perdre, tous les fonds, j'arrête tout.
Oui.
J'essaye de trouver des partenaires industriels. Sans l'industrie, je ne peux pas m'en sortir. Si je trouve un partenaire industriel, j'aurai toutes les banques à mes pieds. Mais là, je n'y arrive pas. Et puis, voilà.
Perte de motivation parce que le mur de l'entrepreneuriat est confronté effectivement à une... réalité industrielle, vous aviez raison peut-être un petit peu avant tout le monde.
Mais oui, le bon moment, c'est le bon moment. C'est pas avant, c'est pas
c'est
après.
Ça.
Et en même temps, c'est tout l'intérêt du temps que l'on prend, parce que je pense que les auditeurs savent qu'on est dans le Libre Journal des Artisans, ils ne s'attendaient pas à ce qu'un pop-corn leur explose à l'oreille. Donc c'est toujours l'originalité d'un parcours. Il y a eu cette histoire, il y a eu cette aventure industrielle, il y a eu cette aventure entrepreneuriale et d'innovation. Mais c'est grâce à tout ça, lorsqu'on peut relire l'histoire et se retourner sereinement, que vous vous êtes amené à vous poser en tant qu'artiste après, et à vraiment passer à une autre étape, après cette révélation en Terre Sainte également. Donc, vient maintenant le temps de la création. Alors, vous parlerez
aussi... Le troisième temps
de ce Luc de Moutier qui a plusieurs vies, mais, et qui n'a pas dit son dernier mot sur le popcorn. Ce sera amusant d'en parler à la fin. Mais voilà, vient le temps maintenant de la création et de se concentrer... avec courage, parce que d'une certaine manière, en tant que pater familias,
l'élocution latine, c'est très bien. C'est encouragé, même.
Et en tant que pater familias, effectivement, il faut un certain courage pour faire face à une réalité en disant cette voie-là n'est plus la mienne, je m'arrête, je tente une autre aventure. Économiquement, c'est pas simple non plus d'aller dans ce projet du popcorn. Et en même temps, c'est armé de courage et d'initiative. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui se posent des questions, qui peuvent avoir une certaine peur au changement et qui peuvent ne pas avoir l'habitude d'écouter leur instinct, il est quand même bon d'écouter et d'aller au bout de ces élans créatifs. Et ce qui vous amène aussi à l'art, et l'art n'est pas non plus un univers en tant que, je le disais, pater familias, c'est assez rassurant, mais pourtant, vous y lancez, et comment se passe le début, j'allais dire, de votre vie d'artiste, de l'atelier et du dessin, de la sculpture et des projets dont on va parler après.
Alors, deux choses. La première chose, pendant tout le moment où je passais dans cette aventure de PopNat, j'avais bien entendu ma famille qui me soutenait, mais aussi le dessin. Je dessinais, et ça me donnait de la paix. Je faisais des origamis, travail manuel.
Oui.
Dans le train, j'ai acheté tout un tas de livres en japonais pour faire des origamis. Je faisais des insectes, des tas de trucs. Et ça me donnait la paix. Et donc, il y a ce côté pacificateur du dessin, de se laisser impressionner. Je dessinais les personnes dans le train, essentiellement des gens. Le côté pacificateur du dessin, de l'activité manuelle.
Oui.
Et ça, c'était devenu petit à petit quelque chose qui était naturel pour moi. Et prendre la décision, choisir pour arrêter son métier d'ingénieur, j'aurais pu retrouver du boulot, eh bien, je crois que je le dois à plusieurs choses. Les premières choses, c'est mon histoire familiale. J'ai deux grands-pères qui ont été des héros de la Deuxième Guerre mondiale, qui se sont lancés dans la résistance. Un est mort en camp de concentration. Il a été fait compagnon de la libération, mon grand-père paternel. Et mon grand-père maternel, qui lui s'est lancé dans la résistance à Alger et qui a été le fer de lance de l'opération Torche, qui a vu le 8 novembre 1942 les Américains débarquer à Alger. C'est lui qui était l'artisan du côté français. Ces deux personnes n'avaient pas peur. Ils suivaient non pas leur instinct, parce que je pense que c'est beaucoup plus fort que l'instinct, leur volonté et leur désir de retrouver une France libérée. Et ça a marqué ma famille. Quand on pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, on y va. Un deuxième élément, j'ai un très bon ami... jésuite, personne n'est parfait, qui m'a initié depuis les années 2000 à la relecture. La relecture, c'est d'écrire ce qui s'est passé pour nous. Et depuis 25 ans, très régulièrement, je prends un certain temps, pour écrire ce qui s'est passé dans les quelques semaines qui viennent de s'écouler. Et cet ami jésuite me disait, tu sais, c'est toute l'histoire de Saint-Ignace qui regarde dans sa vie passée, qu'est-ce qu'il met dans la paix ou qu'est-ce qui ne le met pas dans la paix. On appelle ça la consolation, la désolation. Et là, donc depuis 2000, j'écris.
Une sorte de journal intime, en quelque
sorte.
C'est
un journal intime. Tout à fait. Et avec cet objectif de savoir qu'est-ce qui vous met dans la paix ou qu'est-ce qui ne vous met pas dans la paix. Et la boussole, c'est cette paix. Et c'est comme ça, en 2006, où j'ai compris ce qui me mettait dans la paix, j'ai choisi cette voie.
Le dessin.
Le dessin à l'aquarelle. Admirer ce qui est beau et bon, pour le donner à voir aux autres. Alors, dans la tradition juive, on dit que l'avenir est derrière nous. C'est le psaume, je crois, je ne pourrais pas dire exactement, je ne sais pas, le 115. Ma faute est devant moi. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est ce que je vois. Je ne vois pas l'avenir.
Mmh.
Et donc, c'est en regardant le passé et de voir qu'est-ce qui nous met dans la paix ou qu'est-ce qui ne nous met pas dans la paix que l'on peut décider par où partir. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait des études dans une école d'ingénieurs, les mines, mines de Nancy, plus précisément. Et je me suis passionné pour la mine. Et donc, j'ai fait tous mes stages au fond. Ou dans des mines. Et quand on creuse, qu'est-ce que c'est qu'un mineur de fond? Il creuse des galeries.
C'est ça.
Creuse des galeries. Et donc, pour savoir dans quel, pour les tunneliers, c'est la même chose. Pour savoir dans quelle direction on va aller, les ingénieurs descendent, on fait un trou, et là, ils prennent avec leurs instruments de mesure, ils donnent une direction. Et pour indiquer la direction aux mineurs qui vont continuer à creuser, ils vont mettre dans ce qu'on appelle le toit. Dans la mine, il n'y a que deux choses. Il y a le toit, ce qui est au-dessus, et tout le reste, c'est le mur. Et ils mettent dans le toit deux bâtons. Paf.
Oui.
Et après ça, on creuse en regardant en arrière pour savoir si les deux bâtons sont toujours alignés. Ça vous dit rien sur l'histoire? C'est exactement ça. Et c'est exactement ça ce que j'ai suivi avec cet exercice de leur relecture. Et donc, mon changement de direction, il s'est trouvé facile à faire. Pas forcément facile pour la famille, mais pour moi, c'était une direction évidente.
Évidente, le parallélisme des deux bâtons, mais aussi nourri de « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire qu'on sait que c'est une sagesse spirituelle importante que de savoir se poser, de relire sa journée par exemple, ou sa semaine, ou son mois. Mais agir est indispensable. C'est-à-dire qu'il faut accoucher des mots, il faut prendre le temps de l'écrire, parce que la portée et la vertu de cette démarche est bien plus fructifiante que de simplement d'y penser.
Alors, oui, mais le mineur, après ça, il perce des trous, il met de la dynamite et il continue la galerie. Là, il faut continuer.
C'est un parcours.
Oui, alors, Germinal nous montre la partie dangereuse et en oubliant le savoir-faire des architectes, des ingénieurs. Mais effectivement, le parcours, la vie, c'est ça, c'est creuser sans cesse. En sachant néanmoins, en ayant une idée de où on veut aller, même si ça ne nous appartient pas. Oui.
Surtout en ayant une idée de d'où on vient et ce pourquoi nous sommes faits.
Oui.
C'est ce pourquoi nous sommes faits qui est la chose la plus importante à trouver. On parle de vocation. Dans la Genèse, au chapitre 1, au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Le projet de Dieu sur l'homme, c'est que ce soit une image ressemblante. Mais au verset d'après, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa homme et femme, il les créa à son image. On ne parle plus de ressemblance. Qu'est-ce que c'est qu'une image par rapport à une réalité? C'est quelque chose qui est restreint. Une image, c'est en 2D, la réalité, c'est en 3D. Mmh. Et donc, nous avons chacun des caractéristiques qui nous viennent de Dieu. Et ça, ce n'est pas toujours facile à trouver. Et le travail le plus passionnant pour des parents, c'est d'aider nos enfants à trouver quelles sont nos qualités pour suivre ces qualités et essayer de travailler avec elles.
Vous me faites ce propos me fait penser à une phrase d'Emerson, qui est un transcendantaliste américain du XVIIe, qui disait « Si tu veux tracer ton sillon droit, accroche ta charrue à une étoile ». Alors là, effectivement, on a parlé de votre formation, du chemin de Damas, d'une révélation. On a cité effectivement des versets de la Bible. Votre démarche est une démarche artistique qui est guidée par une approche religieuse, en quelque sorte, ou une inspiration religieuse, ou une
Une révélation intersainte en ayant la chance d'être dans le tombeau du Christ, eh bien, motivée par une colère contre quelqu'un, pousse à la réflexion un peu plus loin.
c'est pas une colère contre quelqu'un, c'est une colère contre une attitude de personne.
Oui. Oui. Mais normalement, lorsqu'on est sur place, on peut être considéré comme apaisé, nourri du lieu. Et c'est intéressant de voir que justement, le bon Dieu vient nous titiller et pour faire naître quelque chose qui, le matin même, pouvait nous paraître inenvisageable.
Oui. Alors, il y a une chose. Quelquefois, on me caractérise comme un artiste chrétien, un artiste catholique. Là, je ne suis pas content du tout. Je suis un artiste et un chrétien. Un artiste et un catholique. Et ma foi catholique et la réflexion que la foi catholique m'a permis de mener me conforte sur le chemin sur lequel je suis. Mon objectif, ce n'est pas forcément de faire des vierges ou qui vont aller dans toutes les maisons. Non, c'est toute cette construction que je pense avoir menée entre mon travail manuel et ma réflexion autour de ma foi qui m'ont mené là où je suis. Les deux sont inséparables.
Intrinsèquement liés.
Totalement liés.
Totalement liés.
En même temps, vous ne seriez pas compte qu'il y ait une multiplication des œuvres pour remplacer, par exemple, un certain art religieux du 19e qui a quand même un peu abîmé aussi le sens de l'art, le sens du sacré. Parce que je sais que vous avez une affection particulière dans cette quête du beau, pour effectivement vous souffrez un peu de certaines créations artistiques.
Alors là, on va se diriger tout simplement vers le Saint-Joseph.
Exactement.
Alors, je pense que le 19e siècle est un siècle extraordinaire. J'ai lu cet été un livre sur Napoléon III qui a transformé notre pays d'une façon phénoménale. Paris, nous le devons à Napoléon III.
Absolument.
Donc, c'est le siècle de grandes découvertes, d'industrialisation. Il y a des choses qui sont extraordinaires. Mais il y a trois écueils dans l'art dit religieux au XIXe siècle qui sont concurrents et qui ont apporté quelque chose que je trouve mortifère, totalement mortifère.
Attention, c'est le quart d'heure militant.
Allons-y, nous sommes sur une chaîne militante. D'ailleurs, je rappelle que nous sommes sur le libre journal des artisans, animé par Benoît Aguelon et Benoît Duchâtelet, et nous accueillons Luc de Moutier.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Pourquoi mortifère? Alors, en 1850, Baudelaire s'écrit « La peinture est morte ».
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé en 1850? L'apparition de la photographie. Jusqu'en 1850, il y avait une guilde, il y avait des personnes dont le métier était de faire des images. Mmh. Et ils avaient un monopole sur la fabrication des images. Rentrer à l'école des beaux-arts au début du 19e siècle ou rentrer à l'école polytechnique, c'était aussi difficile.
Oui.
Et la carrière était aussi prometteuse en rentrant aux Beaux-Arts qu'en rentrant à l'école polytechnique.
Mmh. Il y avait un art officiel aussi.
Ça, c'est 1850.
Il y a toujours un art officiel.
C'est 1850, il y a toujours plus ou moins. Mais là, on va arriver après justement, dans les années 70. Et donc, les peintres perdent totalement leur monopole. La photographie casse ce monopole. Si vous allez au musée d'Orsay et que vous allez voir les Stalles Nadar, vous ne voyez que des portraits. Le peintre vit du portrait. Il fait des batailles, il fait de l'histoire, il fait des paysages. Mais qu'est-ce qu'il fait vivre? Ce sont les portraits. Toute la société se fait tirer son portrait.
Oui.
Depuis les princes, jusqu'aux personnes.
Jusqu'aux paysans.
Jusqu'aux paysans. Tout le monde se fait faire son portrait. Un peu aisé quand même, mais enfin bon. Et donc ça, ce monopole, il est balayé. Et ça, ça a amené d'où cette apostrophe de Baudelaire qui peignait « La peinture est morte ». Et ça, ça a amené à tout un courant qu'on appelle l'académisme.
Oui.
Et où il faut faire aussi bien que la photo. Si vous allez au Petit Palais et que vous voyez ces magnifiques peintures, c'est aussi précis que l'appareil de photo, mais c'est gigantesque. L'appareil de photo, lui, il fait des tout petits portraits. Mmh. Et les peintres ont fait aussi précis, mais en gigantesque. Eux, ils ont la capacité. Et donc, il y a tout un travail où on veut faire à l'exact. Non pas vivant, mais à l'exact.
Mmh.
Premier problème. Deuxième problème. Dans l'art religieux. L'art religieux, depuis les premiers siècles, pas tout à fait les premiers siècles, mais enfin, il y a deux grandes voies dans l'art religieux. C'est le symbolique, qui trouve toute sa voie autour des icônes, qui va être la tradition de l'Europe de l'Est. Il y a le symbolique et il y a l'inculturé, où on prend les gens de l'époque pour représenter la Sainte Famille, pour représenter les épisodes bibliques. En 1850, c'est à peu près l'arrivée de l'école biblique de Jérusalem. Et donc, on veut faire autant du Christ. Et vient en même temps tout le mouvement des orientalistes. Mmh. Donc, toute la peinture religieuse va se faire autant du Christ.
D'accord.
Et donc, on ne prend plus les personnes de leur époque pour montrer des scènes religieuses. On essaye de se mettre au temps du Christ. Et donc, il y a tout un pan de l'art religieux qui tombe, c'est l'inculturation. Or, l'inculturation, c'est quand même montrer aujourd'hui la vie du Christ, mais d'aujourd'hui, pas d'il y a 2000 ans. Et puis, le troisième point, c'est le romantisme. J'espère que je ne vais pas choquer trop de personnes à l'antenne.
Prenons le risque.
Mais le romantisme où l'artiste pense être le créateur.
Oui.
Il se met à la place du créateur. Alors que dans les autres mouvements, c'est il reçoit. Il reçoit pour donner. Et donc, ben, ça donne l'académisme. L'académisme qui est mortifère et dont on sort avec deux voies majeures. L'impressionnisme, qui a des racines, mais très très profondes. Ce n'est pas uniquement du 19e siècle. Bon, Delacroix est un pré-impressionniste. Turner est totalement dans l'impressionnisme. Ils n'ont pas vécu à la fin du 19e siècle. Mmh. Donc, il y a tout un courant artistique qui remonte où on dit on ne va plus montrer exactement ce que l'on veut, mais on va montrer des impressions pour donner un sens. Et puis l'abstraction pure avec Kandinsky. Et ce sont les deux voies qui ouvrent toute l'histoire du XXe siècle.
Et comment se place l'art religieux là-dedans ?
Académique. Il reste uniquement académique. On ne fait plus des personnes que l'on rencontre. Un des derniers à avoir fait une peinture, et ça c'est un historien de l'art qui s'appelle François Boeufslug, qui m'a raconté ça. James Tissot, au 19e siècle, un orientaliste, est fait la dernière la parabole du fils prodigue, fait la dernière représentation inculturée, où le fils prodigue, c'est un fils d'un bourgeois dans une tour de Manhattan. Le retour du fils prodigue, c'est ça.
Oui.
Et là, on est complètement dans l'acculturation. Et après ça, il arrête et il part à Jérusalem. Il fait des choses extraordinaires sur les orientalistes, etc. Mais on a arrêté, à partir du 19e siècle, quasiment totalement de faire l'acculturation. Alors, il y a un peintre lyonnais qui s'appelle Bruno Desroches qui fait des scènes bibliques avec uniquement des gens d'aujourd'hui.
Oui. D'accord. C'est un peu déroutant.
C'est déroutant parce qu'on a perdu l'habitude.
Oui.
Mais on va revenir sur le Saint-Joseph.
On vous laisse naviguer, en fait. Cette émission est passionnante. Donc, je rappelle que vous êtes sur le Libre Journal des Artisans et on reçoit Luc Demoutier, que vous pouvez retrouver sur Google. Luc Demoutier, Moustier, et c'est Journal d'un Pinceau.
Absolument.
Le site internet.
Et puis, il y a un Instagram, il y a une chaîne YouTube.
Tous les réseaux sociaux.
Pas tous. Je ne suis pas sur TikTok.
Non.
Et en fait, allons vers Saint-Joseph. Dès 2015, je suis la marche de Saint-Joseph tous les ans à Paris.
Pardon, qui pour mémoire est autour de la fête de Saint-Joseph et qui est une marche de pères de famille et de paroissiens.
Oui, puisque Saint-Joseph est saint patron
de la Sainte Famille.
De la Sainte Famille.
Des travailleurs aussi.
Et des travailleurs aussi.
Et ça, je crois que les premières marches, j'ai dû faire en 2014 ou 2013. Et en 2016, je rencontre un ami avec qui j'avais fait du catéchisme plusieurs années avant. Et je savais qu'il était parmi les organisateurs de cette marche. Et je le rencontre au chevet de la basilique d'Argenteuil, où il y avait
l'exposition de la Sainte Tunique.
De la Sainte Tunique. Et je lui dis, écoute, ta marche, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. À chaque fois que je rentre dans Notre-Dame, j'ai tous les poils de mon corps qui se dressent. On est 2000 pères à Notre-Dame, c'est sensationnel. Mais le saint derrière lequel on marche, vraiment non. Vraiment non. Alors, c'était un moulage d'un Saint-Joseph, 19e, que l'on voit un peu partout, polychrome. Et j'ai dit, pourquoi on ne ferait pas un Saint-Joseph avec l'enfant Jésus qui est sur ses épaules, comme tous les pères le font? Et il dit, écoute, je ne suis pas le patron, c'est compliqué. 3 semaines plus tard, il m'envoie, il me dit, c'est moi le patron, on y va. Je fais une première esquisse. Oui, pour revenir à Jérusalem, je ne travaille que sur le motif. Jamais d'après mon imagination. J'ai des modèles qui viennent dans mon atelier et c'est ces modèles-là qui me donnent la direction. Donc, je fais venir un modèle pour avoir un père qui marche avec l'enfant Jésus sur ses épaules. Et cet ami me dit, oui, c'est très bien, on y va. On est fin juin, j'écoute. Les trucs qu'on fait tout seul, ça ne marche pas. À la rentrée, tu fais venir l'équipe d'organisation, puis on en discute. Mmh. Fin septembre, ils viennent dans mon atelier, ils disent « Non, c'est pas assez dynamique ce truc-là. » Ah, c'est pas dynamique. Bon, samedi, vous revenez, j'aurai mon modèle et on fera quelque chose de dynamique.
Oui, parce que vous êtes en mouvement toujours.
Oui. Et là, le modèle vient et cet ami dit « Mais pourquoi on ne lui ferait pas montrer les marches de Cotignac ?» Donc je prends un tas de terre, je mets sous un pied et mon modèle monte un escalier. D'où la naissance de Saint-Joseph de la Marche, qui n'est pas Saint-Joseph en marche.
D'accord.
Vous pouvez peut-être le rapprocher de vous, cher Luc, puisque vous en avez apporté un modèle, un bronze,
voilà.
Qui se voit. Levez-le un tout petit peu, qu'on en profite pour... Voilà, et un peu exactement.
Pour
tournez-le.
Pour nos auditeurs de YouTube.
Faites-le tourner.
Donc, nous avons fait une représentation de Saint-Joseph, effectivement marchant et...
avec le Christ sur les épaules.
Avec le Christ sur les épaules, bénissant la foule.
Exactement.
C'est ça. Et je ne me trompe.
Lorsqu'on le regarde de dos, même l'impression qu'il montre la voie.
Il montre le chemin. Et donc, je me lance dans cette aventure. Pendant l'été, j'avais remarqué un petit garçon à la sortie de la messe, pétillant de malice. Je tourne autour. Il paraît que son père avait été un peu inquiet.
Oui.
Et en fait, c'était le petit-fils d'ami dans le sud-ouest. Et je demande aux parents de pouvoir m'en servir comme modèle. Ils ont tout de suite accepté. Et j'ai travaillé sur ce portrait pendant 4 mois. J'y arrivais pas. Et puis un beau jour, j'ai sorti quelque chose. J'envoie les photos au père. Le garçon dit, c'est moi. Le monsieur m'a fait. J'ai plus touché.
Il s'est reconnu.
Le rôle de l'observation est primordial dans ces cas-là.
Total. On ne fait que recevoir.
Je reviens quand même sur la particularité. On connaissait les Saint-Christophe dans l'iconographie populaire portant un enfant sur une épaule. Donc, un Saint-Joseph faisant comme n'importe quel père de famille... portant le Christ sur ses épaules, n'existait pas dans l'art religieux
en sculpture.
Et donc, on avait l'habitude de reconnaître potentiellement un Saint-Christophe dans ces cas-là. Et Saint-Joseph, du coup, avait vraiment toute sa place dans le cadre de cette marche et de faire naître ce Saint-Joseph de la marche. Votre ami, justement, a eu raison de suivre son instinct. C'était un manque qui a été comblé grâce à vous.
Alors, un historien de l'art, toujours le même, me dit que c'est le premier Saint-Joseph Christophore en sculpture qu'ils connaissent. Il y a quelques icônes où on représente Saint-Joseph rentrant d'Égypte avec l'enfant Jésus sur une épaule, mais un Saint-Joseph Christophore, c'est le seul qu'ils connaissent. Mais je pense que, En tout cas, cette statue a eu un certain succès. Quand je demande à mon ami quelle taille il la veut, je fais une esquisse. À chaque fois, je travaille sur des esquisses, c'est-à-dire quelque chose d'une trentaine de centimètres. Mm-hmm. Et après ça, j'agrandis. On en reparlera, si vous voulez,
oui, sur l'agrandissement. C'est impressionnant.
Et là, je lui dis, tu le veux de quelle taille ? Il me dit, le plus grand possible, mais il faut que ça rentre dans le coffre d'une voiture.
Sens pratique.
Bon.
J'ouvre le coffre de ma voiture, je prends 1m75, la statue fait 1m75.
Et c'est une statue, donc, grandeur nature.
Non, c'est plus petit. C'est 1m75 entre le pied et la hauteur de Jésus.
D'accord.
C'est pas la hauteur de Saint-Joseph.
Oui, oui, oui.
Mais, à contrario, pour qu'elle soit transportée, elle est sur ce qu'on appelle une joëlette, c'est-à-dire qu'elle est portée à bout de bras et le bas de la statue repose sur une roue, et ce qui permet ainsi de pouvoir la voir de point de vue mobile en pèlerinage. Et donc, la hauteur est impressionnante parce que, pour autant, lorsqu'on est à ses côtés, on lève la tête pour le regarder.
La statue est à 70 cm au-dessus du sol.
Voilà.
Et donc, ça lui donne de loin une audience qui est assez extraordinaire. Et alors, avec un ami, au tout début, j'avais fait la statue en plâtre. Et puis, on a fait un moulage, on a fait une levée de fond, parce que le sanctuaire de Cotignac me l'avait demandé en plâtre, donc en résine, donc j'ai fait un moulage, et on a plusieurs exemplaires de cette statue. Et en 2019, j'ai la version en résine, et on a décidé, avec la marche de Cotignac, de le transporter pendant notre pèlerinage. Alors, c'est 60 km dans les chemins du Var, ça monte, ça descend. On l'a sorti de la voiture pendant 2 heures, et après ça, on l'a rentré.
Ah oui.
Et à la fin du pèlerinage, il y avait une personne en mobilité réduite qui est sur une joëlette. Et un des pèlerins me dit, ben voilà, c'est ça ce qu'il faut que tu fasses pour ta statue.
D'accord.
On est en 2019, janvier-février 2020, je fais une joëlette qui permet d'amener la statue sur une roue. Et comme ça, ce n'est pas compliqué de la transporter.
Il ne faut pas oublier que notre invité est ingénieur à la base. Donc, faire une joëlette, construire des choses complémentaires, ne lui pose aucun problème.
Ingénieur et inventeur.
Et ingénieur et inventeur. Et au contraire, c'est ma passion. Et 2020, Covid, pas de marche de Saint-Joseph. 2021, marche de Saint-Joseph réduite, mais... Arnaud Boutéon, un grand ami, chevalier de Colomb, me demande de faire une veillée de prière à Saint-Leu-Saint-Gilles, la paroisse des prostituées et des SDF, avec Mont-Saint-Joseph.
Mmh.
Une après-midi de prière, le 19 mars, jour de la Saint-Joseph.
Oui.
J'y vais, on emmène la statue, la joëlette, et après... cet après-midi de prière, on remonte la rue Saint-Denis.
Oui.
Sex shop à droite, sex shop à gauche. L'assistance, le jour de la veillée, ben c'était des prostituées, c'était des SDF, ce sont des misérables. 2 heures de prière. Je remonte. Et quelques dizaines de mètres après être sorti avec Arnaud, on remonte la rue Saint-Denis pour rejoindre la basilique Montmartre. Quelques dizaines de mètres après, on passe devant un sex shop, il faisait un temps radieux. Et là, il y a le patron du sex shop qui voit la statue et qui lève le doigt en disant « Mais c'est Saint-Joseph, le jour de la Saint-Joseph !» Et le pape, avec son année Saint-Joseph, merci, quel cadeau !
Voilà.
On s'arrête, on lui donne un paquet de prières. Et puis, sur Saint-Joseph. Et puis on remonte. Et là, on voit les regards des enfants, comme ça, sidérés, avec l'enfant Jésus sur les épaules de Saint-Joseph. Ils se représentent tous avec Saint-Joseph sur les épaules de leur père. Et le lendemain matin, lors de la marche, Arnaud me dit, « Dis ta statue, si on lui faisait traverser la France à pied ?» Je lui dis « Chiche !» Et quelques jours plus tard, on se retrouve à 4 dans mon atelier, les 4 organisateurs de cette grande marche, et je dis à mes 3 compères, si vous voulez qu'il y ait un truc qui merde dans l'organisation, vous me le confiez. Par contre, moi, je vous fais une joëlette qui va tenir les 1000 kilomètres. Et ce qui s'est passé. Et le 7 juin, donc là, on est vers le 20-21 mars.
Oui, de 2021.
De 2021, le 7 juin, on part de Paris pour rejoindre Cotignac. 1000 km à pied. Il y a plusieurs centaines de personnes qui se lèvent pour organiser cet événement. 2 mois et demi de marche à travers la France. On estime qu'il y a eu 10 000 personnes qui ont suivi la statue pendant les 2 mois et demi.
Oui, parce qu'il y a eu, des relais, il faut dire, il y avait eu une expérience peu de temps avec le Grand M de Marie, il y avait eu une expérience de pèlerinage en France avec des relais de pèlerins, puisque peu ont fait la totalité du parcours, il faut une disponibilité et une santé pour le faire, mais ça permettait à un pèlerin de partir de Paris, de partir de n'importe où dans les étapes, comme un pèlerinage de Compostelle, et de faire des tronçons, et d'accompagner un moment...
Deux heures, deux jours, deux semaines.
Exactement. Et de Paris, cette Joëlette a tenu bon, ses pèlerins ont tenu bon, et l'arrivée à Cotignac s'est faite dans une émotion inouïe, incroyable. Vous avez eu besoin, je crois, d'intervenir une fois pour réparer un bout... parce que les chemins par lesquels est passée la statue n'étaient pas du tout des chemins confortables.
Il y a un truc qui est quasiment miraculeux. On a crevé 2 fois. Et les 2 fois, j'étais là.
Oui.
j'ai pas fait les 1000 km. J'ai fait que 200 km sur les 1000. Mais les 2 fois, j'étais là. Et donc, j'ai réparé tout de suite. J'ai fait réparer. Le procédé est d'une simplicité enfantine et d'une robustesse tout à fait extraordinaire.
Mais le produit est solide, mais il fallait effectivement que la diversité des pèlerins qui l'ont pris en charge sachent quand même se débrouiller avec le maniement d'une joëlette au travers de chemins rocailleux, au travers de petits ruisseaux, au travers de la France
absolument
entière. Et donc vous fourmiez d'anecdotes et de fioretti de cette expérience ainsi que de bien d'autres, parce que vous avez parlé de votre atelier mais à Boulogne-Billancourt. Mais là aussi, lorsque vous travaillez porte ouverte, vous avez des rencontres et des réactions de publics plus divers les uns que les autres, et là vous serez intarissable d'anecdotes. Donc on invitera les auditeurs à prendre contact avec vous ou à passer vous voir à votre atelier de Boulogne. Mais il y a eu cette expérience incroyable. Vous avez parlé d'Arnaud Boutéillon et des Chevaliers de Colomb, parce que c'est au titre de cette fraternité d'hommes que j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous rencontrer. Donc est-ce que vous pouvez en dire un mot et expliquer pourquoi est-ce que ça a été une initiative, et que sont les Chevaliers de Colomb, et dans quel univers ça vous a amené artistiquement?
Alors, un jour, dans la paroisse, une personne que je croisais me raconte qu'il est en train de monter un conseil dans cette paroisse de Chevaliers de Colomb. Je lui dis, c'est quoi ce truc-là? Il m'explique. Il me dit, eh bien voilà, on est au service de la paroisse. Le maître mot, c'est serviam. Et puis, on est des personnes d'horizons très différents et on se retrouve au service de la paroisse. Ça m'a tout de suite plu. Et donc, je suis rentré dans cette confrérie qui est issu du 19e siècle aux États-Unis. Et donc, ça permet de créer des amitiés. Et quel cadeau que de pouvoir créer des amitiés. Mmh. Et donc, j'ai suivi bonhomme à l'an. Je ne suis pas un organisateur. Je suis un travailleur manuel. Et j'ai suivi petit à petit toute cette aventure. Et cette aventure m'a guidé aussi vers une autre aventure. En juin 2023, coup de téléphone d'un chevalier de Colomb. Bonjour, je suis un tel, je suis officier de liaison au Pentagone. Et au Pentagone, il y a une grande galerie où il y a des œuvres d'art données par toutes les armées alliées. Sauf la France. Est-ce que vous feriez un buste du maréchal Foch pour le mettre dans cette galerie? Je dis oui, je peux vous faire un buste du maréchal Foch, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des rencontres entre personnes. J'avais fait quelques années avant une rencontre entre Saint-Bruno et Saint-Hugues. J'avais fait aussi une évocation du retour du fils prodigue. Donc, une rencontre entre deux personnes, et puis une rencontre entre deux personnes, Jésus et Saint-Joseph.
Exactement. Oui.
Et j'étais un peu connu sur ce sujet. Alors, mon interlocuteur me dit, Pershing, le commandant de l'armée américaine. Pendant la Première Guerre mondiale. Et il m'envoie une quinzaine de photos. Et vive WhatsApp. Ah, c'était en anglais.
Non, c'est bon, c'est un nom propre.
Et là, je lui réponds aussi sec, avec une photo extraordinaire où c'est le maréchal Foch qui vient de renvoyer au général Pershing sur le bateau qui va le reconduire aux États-Unis. Et il y a une connivence entre les deux personnages extraordinaire. Ils ne regardent pas le photographe.
Ah oui.
Ils ne regardent pas le photographe, ils se regardent eux-mêmes. Et on voit dans le sourire entre les deux personnages, qu'on ne voit pas vraiment complètement, parce qu'ils sont forcément...
Oui, un petit peu de dos.
Mais on voit le sourire des marins qui regardent cette intimité entre les deux personnes. J'y travaillons là-dessus. Mon interlocuteur travaille auprès de l'armée française, parce que c'est offrir au Pentagone, et puis auprès du Pentagone, et il a le feu vert 9 mois plus tard. En mars 2024, viennent dans mon atelier un modèle qui fait 1m85 et un modèle qui fait 1m75 pour représenter cette scène. Je travaille pendant une matinée en faisant des aquarelles, en faisant une esquisse de 35 cm et tout le monde est d'accord. À partir du moment où j'ai l'esquisse, je passe à l'agrandissement avec un pantographe que j'ai réalisé avec un ami, notre curé dans le sud-ouest, qui est un théologien, un philosophe, un apiculteur, qui est un mathématicien, un menuisier, charpentier, et qui est aussi, tout simplement, l'exorciste du diocèse.
Quelqu'un qui, tout de même, a plus de casquettes que vous, ce qui devient rare.
Non. C'est un personnage tout à fait extraordinaire. Et je l'avais appelé un jour et je voulais, je voudrais faire un pantographe de sculpteur pour agrandir mes sculptures. C'est quoi ce truc-là? Il vous a qu'à regarder sur Internet, vous verrez bien. Le lendemain matin à 9h, il m'appelle. Il dit, bon, moi, j'ai déjà fait quelque chose. Quand est-ce que vous venez pour qu'on étudie?
Extraordinaire.
Et petit à petit, j'ai mis au point ce pantographe qui est dans mon atelier à Paris et dans un atelier, j'en ai un autre dans mon atelier dans le sud-ouest. Et donc, à partir de ce pantographe, sur YouTube, j'ai une petite vidéo qui montre tout ça.
Vidéo, oui.
À partir, je pars de l'esquisse et je fais une sculpture de 70 cm de haut qui était... le plâtre a été terminé, donc là, on est en mars. En mi-juillet, je dépose le plâtre chez le fondeur et début novembre, une sculpture, un tirage est parti pour le Pentagone et il y a un autre tirage qui est resté un peu plus longtemps qui a été donné aux Marines. Et le 17 septembre dernier, ça a été l'inauguration de cette statue au plein cœur du Pentagone, et avec tout un stand sur l'amitié, la plus ancienne amitié oui. de l'armée américaine. Et cette statue célèbre l'amitié entre les deux armées.
Alors, émotion certaine, parce que d'abord, il y avait donc un vide, comme vous le disiez, dans cette galerie d'offrandes qui avaient été faites aux Américains, et là, la France n'était pas représentée. Prouesse diplomatique, parce qu'il fallait aussi obtenir tous les feux verts et les accords à un moment où, je ne dirais pas que les deux pays n'étaient pas en odeur de sainteté l'un avec l'autre, mais les relations contemporaines étaient tendues. Donc tout le monde a fait fi de cette actualité pour réussir cette opération d'amitié matérialisée par cette statue. Et... Vous pouvez redonner le délai qui s'est passé entre la première discussion et la cérémonie officielle?
Entre la première discussion...
De l'idée qui est venue de
Alors,
de
prévoir la première discussion,
œuvre.
C'est en juin 2023. Le feu vert, c'est en février 2024. La pose, c'est en mars 2024. L'envoi de la sculpture, c'est en novembre 2024. Le don par l'armée française à l'armée américaine, c'est le 2 février 2025. L'inauguration du stand, c'est en septembre 2025. Voilà les grandes lignes.
Oui, donc tout cumulé, quand on sait le délai de la création d'un bronze et les étapes qu'il faut pour ne serait-ce que le concevoir avant d'avoir à l'offrir, c'est un délai très court.
C'est une réussite assez rapide,
impressionnante. Alors, vous parlez des chevaliers de Colomb, là c'est très concret parce que...
Qui sont les chevaliers de Colomb?
C'est ce que disait notre invité et Univers, donc une fraternité d'hommes qui m'est familière également... ce sont des pères de famille au service de la paroisse. Donc c'est une œuvre de charité qui a pris naissance aux États-Unis grâce à un prêtre qui a été formé par des Français, parce que, de manière chauvine. On rappelle aussi cette paternité. Mais qui, le constat étant que des pères dans une paroisse, finalement, ne se connaissent pas forcément de manière fraternelle, fraternellement. Et l'idée, c'est de permettre à une paroisse d'être plus organisée, plus soudée et au service de son curé. Donc, c'est une œuvre de fraternité qui part de père de famille, qui demande au curé. Le curé demande à l'évêque si il est possible d'installer un conseil de chevalier de colon dans sa paroisse, de manière à rayonner et être à disposition du curé pour servir la paroisse. Ce qui permet une action locale, ce qui fait souvent plaisir aussi à la famille et qui évite que le père aille loin dans des engagements divers et variés. Là, c'est une action locale, fraternelle, de charité, et qui se développe dans le monde entier, qui s'est développée en France que depuis peu de temps, et que porte Arnaud Boutéan, dont nous parlions tout à l'heure.
Alors, moi, il y a une chose qui me touche complètement, c'est comment l'amitié peut être à l'origine de grandes œuvres. Et c'est dans ma sculpture ce que j'essaye de montrer. Il y a l'amitié entre Saint-Benoît et Saint-Hugues qui crée tout le mouvement de la Chartreuse, la Grande Chartreuse.
Oui.
Là, il y a l'amitié entre Foch et Pershing qui a permis d'économiser quand même aux Alliés 9 mois de guerre. Oui. Parce que toutes les prévisions donnait la fin de la guerre au printemps 2019.
Mmh. Oui, merci pour ce rappel, effectivement. Oui.
Et donc, 9 mois de guerre, c'est pas rien. Et de cette amitié est sortie, justement, la fin de la guerre. Et ce qui me touche avec le Chevalier de Colomb, c'est que c'est là, c'est une façon de proposer des amitiés, mais des amitiés qui vont se réaliser sur le service. Il n'y a qu'un seul mot, serviam.
Oui.
Et c'est en rendant service ensemble que les amitiés se forgent. Et ces amitiés sont à l'origine de grandes œuvres.
Et une présence, on parlait de la Première Guerre mondiale, mais les pèlerinages militaires internationaux à Lourdes, les chevaliers de Colomb sont là depuis bien longtemps et viennent en pèlerinage en France bien avant que les Français sachent que ça pouvait être et bénéficient aussi de ce déploiement sur leur sol. Et les Américains ont cette humilité de dire, nous, voilà, on a su le déployer, mais ça n'a de sens pour nous, cette œuvre n'a de sens pour nous que si la France la prend également à bras-le-corps, parce que vous avez une histoire telle que c'est ensemble que ça a du sens.
Alors Foch était chevalier de Colomb, et les chevaliers de Colomb ont donné à Foch un bâton de maréchal. Ont payé le bâton.
Oui.
Et donc d'où l'idée de prendre Foch comme figure de cette amitié entre les deux armées, avec Pershing, Lafayette, nous voilà.
C'est ça.
Et donc, tout ça, ça tourne de façon quasi naturelle. Et c'est là où la simplicité est quand même très très forte.
Oui. C'est une démarche de simplicité. Je rappelle déjà que vous êtes sur Radio Courtoisie, le libre journal des artisans, et nous accueillons Luc de Moutier, ingénieur, inventeur et sculpteur. Et là, nous abordons effectivement le côté sculpture, démarche. C'est une démarche, en fait, de témoignage de foi. Le rôle de la foi dans votre œuvre est permanent. Est permanent. Vous avez une démarche particulière par rapport à celle-ci?
Je sais pas si... Non, je crois pas que la démarche est particulière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je refuse l'étiquette d'artiste chrétien.
Oui.
Je suis un artiste et je suis un chrétien.
Oui.
Parce que artiste chrétien... C'est une personne qui va aller sur un marché
ça
de l'art chrétien.
Ça fait militant, oui.
Et puis ça fait assez mercantile, je suis désolé.
Oui.
On va aller sur un marché de l'art chrétien.
Et une niche.
Une niche. Non, non.
Une case.
Je suis un artiste et je suis aussi un chrétien. Et ma conviction, ma foi, ce que j'essaie de vivre, c'est le christianisme en tant qu'artiste.
D'accord.
Alors, c'est peut-être l'occasion, parce que je vois qu'il nous reste un quart d'heure pour profiter de vous. J'aimerais que vous puissiez intervenir. Ah, je crois que c'est un bon tremplin pour que vous puissiez nous éclairer sur l'importance de la lumière dans l'art, parce que justement avec un regard chrétien, je me souviens d'une discussion où vous parliez de la lumière naturelle et de la lumière artificielle. Et je pense qu'on peut aussi faire bénéficier à nos auditeurs d'un point de vue et de vos lumières en la matière, parce que ce sont des réflexions que toute personne raisonnable ou tout parent ont en tête quant à la façon de vouloir comprendre les choses et protéger nos enfants. Et vous avez eu l'occasion d'intervenir dans des écoles à ce sujet. Si vous pouviez effectivement faire un point spécifique de l'importance de la lumière dans l'art, dans votre art, et cette différence entre lumière naturelle et lumière artificielle.
Alors, je prends une petite parenthèse. Je félicite Benoît pour le sens de sa transition.
On est aidé en ça par notre invité.
Luc, dites-nous.
Alors, pas uniquement la lumière artificielle. Qu'est-ce qu'une image ? Une image, c'est la projection d'une réalité 3D sur un plan. On perd une information dans l'image.
Mmh.
D'accord ? Et si on veut essayer d'imaginer ou de rendre l'idée du volume, comment va-t-on s'y prendre ? Par la lumière. C'est la lumière qui nous donne cette différence. C'est comme ça que les jésuites sont arrivés à la cour de l'empereur de Chine. Ils sont arrivés pour deux raisons. Ils sont arrivés très rapidement à la cour de l'empereur avec deux facultés qu'ils avaient, l'astronomie, donc les mathématiques, et la peinture. Ils étaient arrivés avec des peintures qu'ils avaient ramenées d'Occident. Et là, les gens ont vu des images réelles. Dans l'art chinois, oriental, il n'y a pas de lumière. Ce sont des aplats. Et donc, la lumière nous donne cette capacité d'avoir la ressemblance de la troisième dimension. Et ça nous vient de la Renaissance.
Oui.
Le travail de la lumière, ça nous vient complètement de la Renaissance. Alors maintenant, si on regarde d'une autre façon une image avec la lumière, la façon dont vous allez éclairer votre image va vous donner une vie à cette image. Si vous prenez un tableau et vous mettez juste une bougie devant, vous n'allez pas avoir la même image que si vous prenez un phare.
Mmh.
L'image va changer en fonction de la source de lumière qui va l'éclairer. Il y a une altérité entre l'image et la source de lumière. La source de lumière va donner une vie spéciale à l'image. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». La source est à l'extérieur de l'image. La source donne vie à l'image.
Anime l'image. Donc donne de l'esprit à l'image.
Donne la vie à l'image.
Oui.
L'esprit, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors que sur un écran, vous n'avez pas de source extérieure. L'image est elle-même source de lumière. Il n'y a plus cette altérité entre la source et l'image. Vous éteignez toutes les lumières, vous ne voyez plus le tableau qui est sur les murs. Vous éteignez toutes les lumières, vous ouvrez votre écran, vous la voyez. La source de l'image, la source de lumière est dans l'image. Comment ça s'appelle ça dans la théologie angélique qui nous vient des Hébreux ?
Dites-nous.
Lucifer.
C'est ça. Le porteur de lumière.
Le porteur de lumière. Il n'y a plus d'altérité entre l'image et la source de lumière. Pourquoi, symboliquement, ces écrans nous captivent ? Si on est captivé, c'est qu'on est emprisonné.
Mmh.
Il y a quelqu'un qui avait appelé ça, il y a quelques années, comment ça s'appelait ? C'était du confinement.
Oui.
On était confiné, on est confiné dans une image.
Et on était en guerre.
Et un écran, alors l'écran il est rien pour lui, mais on se laisse captiver. Et vous avez des écrans qui captivent des personnes âgées et des enfants.
Oui.
On dit que si un enfant regarde des écrans avant 3 ans, il va avoir un retard dans l'apprentissage du dessin considérable.
Mmh.
Considérable.
Tout à fait.
La vue, c'est quand même le dernier sens auquel on a accès. Dans le ventre de notre mère, nous avons tous les sens. Peut-être pas l'odorat, mais enfin, l'odorat et le goût, c'est à peu près la même. Le toucher, surtout. qui est le sens qui va rester jusqu'à la fin de la vie.
Oui.
Tous les autres peuvent disparaître, mais le toucher, ça reste. L'ouïe, le goût, goût, odorat, mais la vue, vous ne l'avez pas encore.
Non.
Et c'est assez étonnant quand on regarde toute l'histoire biblique. Dans la première alliance, quelle est la première injonction du Créateur à la créature ? Shema Israël. Écoute Israël, dans le Deutéronome. La connaissance de la divinité ne peut se faire que par l'écoute. Dans le Nouveau Testament, quelle est la première parole du Christ dans l'évangile de l'incarnation, l'évangile de son Saint Jean ? Il y a Jean le Baptiste qui voit Jésus. Il voit Jésus, il le montre à ses disciples. Les disciples se lèvent, vont rencontrer Jésus. Jésus leur demande : que cherchez-vous ? Il ne s'impose pas. Maître, où demeures-tu ? La réponse est : venez et voyez. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez là une rupture dans l'histoire biblique incroyable. La vue devient possible pour découvrir la divinité, alors qu'elle est interdite dans la première alliance. Il n'y a que deux prophètes, Moïse et... c'est pas Élie, c'est... qui voient Dieu dans la brume légère. Bon. Il n'y a que ces deux prophètes qui voient Dieu, et encore de façon... Bon. Sinon, si on voit Dieu, on meurt.
Oui.
Les juifs, les rabbins nous disent, j'avais lu ça dans un livre extraordinaire du rabbin José Abdelkassis et Heisenberg, un livre assez gros sur les trois premiers chapitres de la Genèse, fantastique. Ils disent... La Bible, ce n'est pas pour nous dire comment l'homme a été créé, mais c'est pourquoi. Si on regarde pourquoi l'homme a été créé, c'est vrai pour toute l'humanité, mais c'est vrai pour chacun de nous.
Mmh.
Or, dans le ventre de notre mère, nous avons la connaissance de l'extérieur par tous les sens, sauf l'ouïe. Et après la naissance, nous avons la vue.
Oui.
Et après la naissance, nous avons la vue qui intervient. C'est exactement ce qui se passe entre la première alliance et la deuxième alliance. La vue devient disponible pour découvrir la divinité. Et ça change totalement notre civilisation, parce qu'on se met à vouloir dessiner, à représenter les choses que l'on voit. Ça va nous mettre sur le chemin de la découverte scientifique, en observant. Et c'est extraordinaire.
Et après, il y a la vie éternelle, où on a encore un déploiement des sens différents.
Ça, je ne suis pas là, je ne peux pas savoir.
Nul ne peut témoigner encore, mais tout le monde témoignera lorsque le moment sera venu pour chacun. C'est une émission passionnante. On a des foules de questions, vous soulevez des foules de problématiques.
Qui
nous touchent tous. Partant de la sculpture, on arrive à faire de la théologie. Vous êtes ingénieur, inventeur, sculpteur, mais aussi théologien en quelque sorte.
Oh là, ça, je n'oserais pas dire que je suis théologien, j'ai aucun diplôme dans le sujet.
Juste une vie.
Mais c'est je reviens sur le rôle de la foi, là. C'est, vous vouliez foi, connaissance et aussi matérialisation de cette... de ce témoignage de foi.
Tout passe par les mains.
C'est ça.
Tout passe par les
mains. C'est un des cerveaux.
La main, c'est André Leroy Gourhan qui a écrit, qui a fait tout son travail, qui est un paléontologue, historien de l'histoire. Il y a des YouTube fantastiques sur justement son thème de son livre, Le geste et la parole. La parole et la main sont complètement liées. Quand vous n'avez plus la parole pour vous exprimer, c'est avec la main que vous vous exprimez.
Oui.
D'où l'importance de supprimer les mots. 1984, un ministère des mots.
Tout à fait.
Qui supprime les mots.
Pour éviter les gestes de révolte.
Mais c'est ce qui provoque les gestes de révolte.
C'est ça.
Supprimer les mots. Et la main dans tout cela, eh ben c'est ce qui permet de nous construire. Combien dans notre monde, combien de personnes sont amputées des mains. En fait, j'ai eu un parcours scolaire un peu compliqué.
Ah.
s'est avéré, mon prénom est Luc. Luc a deux patronages magnifiques. Non, le premier est magnifique, l'autre peut-être un peu moins. Saint-Luc est le saint patron des artistes et des métiers d'art. Parce que c'est lui, la tradition dit que c'est lui qui avait peint la première icône de la Vierge, la Théotokos, où l'enfant Jésus est sur le bras gauche de la Vierge. La Vierge regarde l'enfant Jésus et l'enfant Jésus nous regarde. Donc Saint-Luc, patron des artistes, des artisans, des métiers d'art. Et Saint-Luc, depuis Rabelais, est aussi le saint patron de l'anagramme et du contrepaix. Et...
on ne l'avait pas vu venir, celle-là.
Non, non, non.
Et en fait, mes parents m'ont donné ce prénom sans savoir ce qui se passait.
Oui.
Il se trouve que je suis dyslexique. Et dyslexique, dans notre système français,
oui.
C'est pas évident. Surtout il y a 60 ans ou il y a 50 ans. Il y a 60 ans. En fait, je n'étais capable de lire un livre. Je savais annonner, mais j'étais capable de lire mon premier livre à l'âge de 14 ans. Avant 14 ans, j'étais incapable. Il y avait Sylvain Sylvette, ça allait. Lucky Luke, ça allait. Astérix, ça allait. Tintin, c'est déjà compliqué. Jusqu'à l'âge de 14 ans. Je n'étais pas capable de lire. Pour l'écriture, c'était pareil. J'inversais tous les mots dans tous les sens. Et il y a quelques années, j'ai lu un livre remarquable d'un certain Ronald Davis, Le don de dyslexie. Et Ronald Davis dit, voilà, le dyslexique est une personne qui développe dès la naissance, une vision en 3D. Il voit tout en 3D. Et ça met en place dans son cerveau des connexions qui fait qu'il voit tout de suite en 3D. Le problème, c'est que quand il apprend à lire, les lettres tournent dans le mot et elles tournent sur elles-mêmes. Et je me suis revu dans l'apprentissage de ma lecture. C'est-à-dire qu'on a un handicap sur l'écriture et la lecture considérable. Et très heureusement, mes parents m'ont mis dans une école. Jusqu'à la fin du primaire, j'étais dans une école classique. J'ai fait des zéros partout. Et ils m'ont mis dans une école où on a arrêté de m'embêter avec l'orthographe. En troisième, j'étais le meilleur de ma classe en maths. Et c'est comme ça que je suis rentré en...
Comme ingénieur.
Donc ça va faire plaisir à un certain nombre d'auditeurs de voir que certaines difficultés, évidemment...
Ne sont pas insurmontables.
Mais source de créativité. Mais les parents à l'écoute, parce qu'il faut évidemment cette action. Alors on parle de l'importance de la famille. Hein. Vos parents à l'écoute. Vous avez parlé ensuite des différents... écueils que vous avez pu connaître, mais la famille vous a permis aussi de les surmonter. Donc,
absolument.
Cette beauté de l'accompagnement, de l'amour à côté de soi est une aide qui permet de
mais c'est, surmonter. C'est vital.
On a apporté énormément de sujets, on arrive au terme de cette émission.
Il nous reste à peu près deux minutes.
Vous pouvez prendre le temps de redonner l'adresse, parce que comme vous aimez les rencontres, je pense que vous n'êtes pas allergique à l'idée que certaines personnes viennent vous voir à l'atelier. Et aborder un des nombreux sujets qu'on a pu traiter et de tous ceux qui leur viendraient en tête autour de l'art et de...
Alors, mon atelier est à Boulogne-Billancourt. C'est une petite boutique qui donne sur la rue de la Rochefoucauld, qui est dans la rue de la Rochefoucauld, 26 de la rue de la Rochefoucauld, et qui est une boutique qui est plein nord, qui me permet d'avoir une belle lumière constante en direction et qui me permet de sculpter. Et quand je suis là, c'est simple, les rideaux sont ouverts. Quand je ne suis pas là, les rideaux sont fermés.
Vous êtes bien sur Radio Courtoisie. Nous achevons cette émission du Libre Journal des Artisans avec Luc Demoutier, ingénieur, inventeur, sculpteur. Et puis malgré lui, je maintiens effectivement avec une approche de la foi théologale et érudite. Donc voilà, vous pouvez le retrouver à Boulogne-Billancourt, bien sûr, et sur Internet, donc vous faites une petite recherche, Luc Demoutier, M-O-U-S-T-I-E-R, et c'est Journal d'un pinceau.
Le journal d'un pinceau, c'est mon site.
Votre site Internet.
Et puis j'ai aussi une chaîne YouTube et puis un Instagram.
D'accord.
Le journal d'un pinceau vous dira certaines choses et Luc Demoutier vous dira en direct bien d'autres choses. Donc n'hésitez pas à créer la rencontre.
Voilà. Nous en parlerons avec Benoît, effectivement, peut-être qu'approfondir certains points qui ont été survolés par rapport à notre fil rouge lors d'une peut-être d'une prochaine émission, parce que c'est tout à fait passionnant, et nous remercions Luc de Moutier pour sa venue dans nos locaux de Radio Courtoisie. Vous pourrez retrouver cette émission quelques jours après sa diffusion, étant donné que cette émission est préenregistrée, et aussi après quelques jours sur YouTube, puisque cette émission est aussi enregistrée par vidéo. Bah écoutez, chers auditeurs, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Artisans, dirigé par Benoît Aguelon, une émission préenregistrée et diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 17 octobre 2025 de 19h30 à 21h et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.